devenue donneuse. C'est ma manière à moi de ne jamais me sentir impuissante. Et quand je pense à tous ces patients qui peuvent guérir et vivre à nouveau normalement, je me sens vraiment fière.
Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang.
Dans RTL Bonsoir, Alex Vizorek vous présente sa visioconférence.
Amélie Oudéa-Castéra, qu'on surnomme entre humoristes la mine d'or, elle a été interrogée sur la sécurité des JO. Et voilà ce qu'elle répond.
Il n'y a pas aujourd'hui de menace spécifique sur le plan terroriste contre les Jeux Olympiques.
On ne sait pas si cette phrase est destinée à rassurer ou au contraire à susciter des vocations. On dirait presque un appel d'offres. Pour l'instant, personne n'est prêt. Hein, donc organisez-vous parce que sinon ça va être triste.
La visioconférence, c'est tous les jours à 18h35 dans RTL Bonsoir.
Que pensez-vous du couvre-feu ? Dans un instant, vous en parlez dans Les Auditeurs ont la parole et je prendrai Alexandre. Mais en attendant, il est très exactement 14h. Et à 14h, c'est le rappel des titres avec vous, Lisa-Marie Marquez. Lisa-Marie, à la une, Mathilde Panot de la France Insoumise. Elle vient d'être convoquée par la police judiciaire de Paris.
Oui, la chef des députés LFI est convoquée dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Enquête ouverte à la suite d'un communiqué du groupe parlementaire publié le 7 octobre, jour de l'attaque menée par le Hamas contre Israël. Jean-Luc Mélenchon dénonce sur X un événement sans précédent, ayant pour but de protéger un génocide.
Jeudi, les contrôleurs aériens en France seront en grève. Donc attention si vous avez un avion à prendre jeudi.
Les compagnies aériennes attendent jusqu'à 70% de vols annulés dans certains aéroports, selon les prévisions du syndicat majoritaire.
Et puis à 94 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, voilà que les athlètes français demandent un peu plus d'enthousiasme.
Stop au JO bashing. Les sportifs français en ont assez d'entendre parler que de sécurité, de problèmes de transport et de la pollution de la Seine. Alors faut-il arrêter d'être aussi négatif avec ces Jeux Olympiques de Paris ? 32-10 pour nous donner votre avis et bien sûr l'application RTL.
Et si on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, on en parlera peut-être demain du JO bashing dans Les Auditeurs ont la parole. Tout de suite la météo.
Mode, pêche, nautisme, loisirs, tout l'univers de la mer est au comptoir de la mer. Retrouvez les plus grandes marques marines en magasin et sur comptoirdelamer.fr.
Demain, mercredi, le temps sera nuageux dans la plupart des régions avec des averses plus fréquentes en cours d'après-midi. Il neigera en montagne à partir de 1000 mètres sur les Vosges, le Jura et les Alpes. Et le ciel restera plus dégagé sur le littoral méditerranéen, mais avec du vent. Le Mistral et la Tramontane atteindront 80 km par heure.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Après Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, un couvre-feu pour les mineurs est entré en vigueur à Béziers, dans l'Hérault. Le maire d'Hiver-Droite, Robert Ménard, a pris lundi un arrêté interdisant aux moins de 13 ans d'être sur la voie publique après 23 heures. En cas de non-respect du couvre-feu, le mineur risque d'être conduit au commissariat et les parents risquent une amende. 32-10, vous êtes nombreux à appeler. Je vais commencer avec Alexandre, à qui j'ai dit bonjour juste avant les infos de 14 heures.
Bonjour,
bonjour Alexandre. Je vous écoute, vous avez fait le 32-10, est-ce que c'est une bonne idée ?
Oui et non, en fait, pour moi c'est plutôt une mesurette, ça ne change rien à l'insécurité en fait dans la journée. J'écoute votre radio tous les jours, les faits qui sont passés là récemment, c'est toujours en journée.
Oui.
J'entendais tout à l'heure un maire sur votre antenne qui disait qu'il y avait des points de deal, ce serait bien pour les contrôler.
Je crois que vous êtes sur haut-parleur Alexandre, non ? Vous n'êtes pas sur haut-parleur ?
Non,
mais c'est bon, alors continuez, non, parce que le son est... Alors continuez, je vous en prie, on vous entend quand même. Hein.
Donc, je vous disais, pour tout ce qui est point de deal, etc., ça se fait en journée et aux yeux de tout le monde, en fait. Ça change rien qu'il y a un couvre-feu. Je vois pas vraiment l'utilité et je vois pas ce que ça va changer.
Mais parce qu'il y a beaucoup de délinquance qui est le fait de tous jeunes enfants qui sont même pas encore entrés dans l'adolescence et qui rentrent dans l'ultra-violence et qui apprennent quand même l'école du crime ou plutôt l'école de la délinquance dans la rue, au contact de jeunes qui sont un peu plus vieux, qui ont 15-16 ans et qui leur apprennent des tas de choses quand même, Alexandre.
Oui, je suis d'accord, mais ça se passe pas forcément après 23 heures. La fille à Montpellier qui s'est fait tabasser en pleine rue devant son, à quelques mètres de son collège, il était quoi, 16h, 16h30
oui.
Le jeune dans l'Essonne, de 15 ans, pareil, dans les mêmes heures. Hmm. Le jeune de 22 ans...
Alors on fait rien aussi. Allez, Alexandre, alors on fait rien.
Je veux dire, le couvre-feu, il sert à quoi à partir de 23 heures? Mais avant 23 heures, ces jeunes-là, ils sont quand même dans la rue.
On vous entend vraiment mal, Alexandre. Je suis un peu désolé, on vous entend super mal. Bon, désolé. Mais on a compris votre propos. En tout cas, je vous libère et je vous souhaite une belle après-midi à l'écoute d'RTL, vous qui êtes un fidèle. Merci, Alexandre. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour Eric, ravi de...
Où êtes-vous, mon cher, Nicolas ?
Alors, je suis, moi, Saint-Didier-en-Velay, dans le 43.
Dans le 43. Et le 43, c'est, aidez-moi,
C'est la Haute-Loire.
La Haute-Loire. Quel joli département. Oui. Mais vraiment, c'est sublime. J'y suis allé faire de la marche il y a 4-5 ans en famille. Incroyablement beau.
Oui. Pays d'Auvergne.
Pays d'Auvergne. Bon, Nicolas, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative prise localement par des élus, un couvre-feu à partir de 23 heures, chacun l'adapte, hein. Un élu, il peut dire 22 heures, 23 heures, bon, voilà, mais l'idée, le principe.
Alors, je vais être du même avis qu'Alexandre, le précédent auditeur. Pour moi, c'est rajouter une interdiction de plus, parce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui existent. Il est interdit de vendre de la drogue, il est interdit de d'avoir des armes, et on n'applique pas la loi. Donc je me dis, on va mettre un couvre-feu, mais on va pas appliquer les lois non plus. C'est-à-dire que quid du gamin qu'on va trouver dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? On va lui faire un rappel à l'ordre. Mais le problème sera toujours le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'applique pas les lois.
Ouais, j'aimerais, attendez. J'aimerais apprendre Gaël, tiens, qui était avec nous il y a 10 minutes, qui était plutôt favorable. Vous entendez, Gaël, qu'il y a des gens comme Nicolas qui disent, il y a déjà des lois.
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'avait dit Alexandre et Nicolas, c'est ça. Mais moi, j'invite Alexandre qui disait, mais je l'invite en fait à venir à Béziers pendant l'été, là, qui va faire bon. La plupart du temps, c'est des gamins en fait qui sont dans la rue, qui sont dans les quartiers à la Devèze ou quoi. C'est aberrant. Je suis d'accord aussi avec eux. Malheureusement, il y a des lois en France qui ne sont pas du tout appliquées,
L'avantage du couvre-feu pour une ville qui dispose d'une police municipale, c'est que un mineur de moins de 13 ans dans la rue n'a pas le droit d'y être, c'est applicable immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui font leur ronde, ils voient un gamin à 1h du matin, un attroupement de gamins de 12 ans, 11 ans, qui fume, qui embête les badauds, etc. C'est applicable immédiatement, il n'y a pas besoin voilà, on les raconte.
Sur ça, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que, malheureusement, et ça, je ne suis pas le seul à le dire, on a en France une justice qui est à bout de souffle, on a des policiers qui sont à bout de souffle, vous en parlez souvent encore sur votre antenne ou quoi, au bout d'un moment, ils vont arrêter, mais le gamin, deux heures après, il va voir dehors, il va pouvoir recommencer. Ouais. Donc au bout d'un moment, comme disent certains, c'est une mesurette, mais au bout d'un moment, si tous les maires commencent à faire ça, ben, peut-être que le gouvernement, ils vont se dire, on va réfléchir à vraiment quelque chose de sérieux, de plus sérieux.
J'aimerais que Nicolas vous réponde.
Alors moi je suis pas convaincu, effectivement, enfin vous avez raison Eric de dire que elle sera applicable, mais on n'applique déjà pas la loi sur la drogue. C'est-à-dire que la détention de la drogue et la vente de la drogue en France est interdite. Et c'est pas pour cela qu'on fait appliquer la loi.
Mais c'est un problème de justice.
Ben, c'est un problème de justice, c'est un problème de tribunal, c'est un problème de police.
Ben, c'est ça. C'est pas un problème de parce que les policiers, ils arrêtent tous ces délinquants. Mais 2-3 heures après, 4 heures après, les mecs, ils sont dehors. Au bout d'un moment.
Ce sera la même chose pour la mesure du gamin qui a 15 ans, qu'on va conduire au poste de police, on va lui faire un rappel à l'ordre, et ça changera pas le problème.
Peut-être qu'à force, les gouvernements, qui vont arriver en 2027 et tout ce qu'il y a, qu'ils en auront marre, et ils vont vraiment pondre des vraies lois, en espérant, il faut espérer.
Les lois, on les a, si vous voulez, les lois en France, on a tout un panel de lois, on les applique pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tribunaux sont pleins, les policiers sont à bout de souffle, donc on a vraiment un problème ici, c'est dire des mesurettes, dire on va créer ici, on va créer ça, c'est très bien, ça me rappelle un peu la maîtresse qui punit tout le monde à l'école parce que de gars, on fait la connerie, quoi. Attention, je vais punir, quoi. Attention, les gars, je vais punir.
Retenez-moi ou je fais un malheur. C'est le syndrome, retenez-moi ou je fais un malheur. Bon, Gaël, Nicolas, restez avec nous. Johanna a fait le 32-10. Bonjour, Johanna.
Bonjour.
Vous êtes maman, vous avez des enfants, Johanna ?
Oui, j'ai deux enfants, deux garçons. Un qui va avoir 14 ans dans un mois et l'autre qui aura 10 ans fin d'année.
À 23h minuit, en général, ils se promènent dans la rue, ils fument.
Ils sont dans leur lit en train de faire de jolis rêves.
Restez avec moi, je vous reprends dans un instant.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Chaque matin à 8h50.
Oui, c'est Jackie Chasseur. Oui. Ça veut dire quoi, journée mordiale de la Terre? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait attention, on appuie sur le petit bouton de la chasse d'eau pour le pipi, puis sur le gros bouton pour la grosse commission, la journée de la Terre. Et que les 364 autres jours de l'année, on appuie sur le gros bouton, même pour un petit pipi, on perd la tête. Hein.
Retrouvez le sourire avec Laurent Gérard.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1536 euros.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine la trottinette électrique Ninebot F2+ est à 499 euros au lieu de 599, soit 100 euros de réduction. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Mano Mano. C'est le retour des Mano Mano Days, des maxi-promos pour vous équiper, comme sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 à 199 euros.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano.
C'est aussi des Pro Days sur le site et l'appli Mano Mano Pro. Mano Mano. Offre valable du 16 au 29 avril, voire conditions sur manomano.fr.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
La solution, elle n'est pas là. Il faudrait peut-être toucher un peu à tous ces gens qui laissent faire leurs enfants. Je pense que si demain, on touchait à toutes les aides et aux minima sociaux, qu'on dormirait mieux la nuit. Voilà.
Le sujet du couvre-feu mis en place par la ville de Béziers pour les mineurs de moins de 13 ans, à partir de 23h, ça anime beaucoup le débat, hein, Lisa Marie.
Ouais, un couvre-feu pour lutter contre la délinquance juvénile. Vous le disiez, à Béziers, c'est mis en place depuis hier. Le maire Robert Ménard a donc pris un arrêté. C'est pas la première fois qu'il prend un tel arrêté. 10 ans plus tôt, il l'avait également fait. Mais cet arrêté avait été annulé en 2018 par le Conseil d'État, qui avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme.
Ça a été mis en place en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, à la demande de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur, donc le Conseil d'État ne peut plus l'annuler.
Hein. Ouais, on verra ce qui va se passer, mais le Conseil d'État pourrait être de nouveau saisi, hein, c'est possible. Cette mesure pourrait inspirer d'autres villes. Vous parliez à midi 10 avec le maire de Cannes, David Lisnard, qui est favorable à cette mesure. Et puis ce matin, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a dit y songer, lui aussi, dans sa ville, à le mettre en place.
Johanna, bonjour. Où êtes-vous, ma chère Johanna?
J'habite en Bretagne.
En Bretagne, dans quel département?
Ille-et-Vilaine,
en pays gallo, du côté de Rennes, du côté de Saint-Malo.
Entre les deux.
Bon, Johanna, est-ce que c'est une bonne idée, ce dont on parle, la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs?
Eh bien, écoutez, c'est une idée. Moi, je suis assez estomaquée, en colère, attristée qu'on en soit rendu là. Je veux dire, à 13 ans, 15 ans. Ce sont des enfants, ils n'ont rien à faire dans la rue à partir de 18-19 heures. Enfin, je veux dire, c'est que font des enfants? Ils se voient toute la semaine au collège, ils se voient toute la semaine, hormis pendant les vacances, ils ont leur famille, ils ont papy, mamie, enfin voilà. Je ne comprends pas ce que font des enfants le soir, qu'on soit dans une ville ou qu'on ne soit en campagne.
On va vous répondre, famille monoparentale, logement social et nombreux enfants.
Et oui, donc il existe des associations, des centres de loisirs pour que les enfants soient entre eux. Moi, j'habite effectivement pas dans une grande ville, mais mes enfants ne sont jamais tout seuls à la maison. Soit ils sont gardés par la famille, par les amis, ou bien tout simplement, il existe des centres de loisirs, des centres des coglados, des centres pour adolescents où ils sont tous ensemble. Ils font des activités.
Vous travaillez, vous, Johanna? Il y a oui. Toujours quelqu'un à la maison ou non? Vous travaillez?
Non, on travaille tous les deux. Mon mari et moi travaillons. Mes enfants, même à 14 ans bientôt, n'est jamais tout seul à la maison. Jamais. Enfin, je comprends pas le principe de faire des enfants et de dire, ah bah je travaille, donc je laisse errer dans les rues. Non. Ben non, c'est et je rejoins notre auditeur qui a dit mais il y a pas d'horaire, il y a des jeunes enfants qui se sont fait massacrer il y a peu et on était sur des horaires de journée. Non, je comprends pas. Monoparental, faut arrêter avec cette excuse. Oui, il y en a de plus en plus, mais il y a plein de familles qui des parents qui sont dans cette situation et qui aujourd'hui arrivent à éduquer leurs enfants. C'est quoi cet argument?
Et moi j'étais stupéfait, Johanna, la semaine dernière, nous avons déjà évoqué ce sujet dans Les Auditeurs ont la parole et nous avons eu un appel d'une personne qui me disait, moi je suis dans un logement social, je suis en train de regarder par la fenêtre et comme tous les jours, il y a un groupe de gamins qui ont 3, 4, 5 ans qui traînent en bas toute la journée. Je lui ai dit, c'est pas vrai, vous vous moquez de moi. Je lui ai fait répéter 3 fois, il m'a dit, monsieur, je vous assure, il y a un groupe d'enfants, c'est très fréquent, voilà, dans mon quartier, ils sont nombreux, ils sont seuls toute la journée, sans adultes, jusqu'à la soirée. D'ailleurs, il a pas pu me dire si les parents travaillaient, mais en tout cas, ils étaient sous ses yeux.
De toute façon, travailler ou pas travailler, si vous travaillez, ben c'est simple, il existe des crèches, il existe des nourrices qui prennent des enfants même âgés de 5 ans, moi ça, j'ai eu le cas, vous ne travaillez pas, et bien excusez-moi, mais vous ne travaillez pas, vous avez donc la charge de vos enfants, c'est à vous de trouver des occupations et de faire en sorte qu'ils soient occupés autrement que devant des écrans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'écran, mais je suis désolée, quand moi je ne travaillais pas parce que j'étais en congé parental, ou congé maternité plutôt, mais j'occupais mes enfants, enfin, je veux dire, c'est pas... J'étais pas en train de dormir à faire la sieste parce que voilà, non, on a des rendez-vous chez le médecin, ben ils viennent avec nous, on a des rendez-vous à droite à gauche, ils viennent avec nous, ils nous suivent en fait, ce sont nos enfants, on en a la responsabilité, on doit s'en occuper, et excusez-moi, mais 13 ans, ils sont en 5e, 4e, ils sont trop jeunes. Moi, mon fils n'a pas de téléphone, il a 14 ans, il est en 4e, et le si peu que j'ai pu lui donner accès à un téléphone et à des réseaux sociaux, tout de suite, ça devient des bêtises et du n'importe quoi. Enfin, ils ne contrôlent rien, pas plus que leur divagation dans les rues. Moi, je suis effrayée. Je comprends pas. Et cet argument, vous aviez tout à l'heure un
représentant
du RN. J'ai pas retenu son nom, pardon.
Mathieu Vallée, ancien commissaire de police.
Sa maman était seule à élever ses enfants. Elle s'en est très bien sortie. Et je veux dire, elle laissait pas ses enfants sortir le soir. Il y a une chanson qui dit « Laisse pas traîner ton fils ». Enfin, à un moment donné, zut, et j'ai 40 ans, donc je suis peut-être un peu vieux jeu, certainement. Oh,
vous êtes tellement âgée, Johanna, tellement âgée. Non, vous êtes une femme du passé, Johanna.
C'est ça, je dois me dire ça.
Mais non, arrêtez.
Je comprends pas ce que font des enfants à 13 ans seuls. Je vois pas ce qu'ils ont à se dire. Je comprends pas tout ça.
Mais il y a énormément de jeunes, tout jeunes parents qui pensent exactement la même chose que vous. Hein. C'est pas une histoire, à mon avis, d'être vieux jeu ou pas.
Je suis effrayée. Je me demande quelle génération on va laisser à nos enfants, parce qu'on va se retrouver avec des enfants qui ont cette éducation, la mienne et celle de plusieurs parents, et puis des enfants qui, eux, sont...
Ces enfants-là, qui traînent à 11 ans, 12 ans, dehors la nuit, une bonne partie de la nuit, quels parents vont-ils être? Quels parents vont-ils devenir? Ça, c'est angoissant, d'ailleurs. Johanna, merci, qui m'appelle au 3210 d'une petite commune, quelque part en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, entre Rennes et Saint-Malo. Merci, Johanna. Et bonjour, comment s'appelle le jeune homme qui vient d'arriver, qui est en face de nous dans le studio? Comment?
Jean-Michel. Non, ton micro est fermé.
Jean-Michel, oui, voilà. Ouais. Jean-Michel, bonjour Jean-Michel. Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Michel?
Je viens vous parler d'RTL, bonsoir mon cher Eric, qui aura lieu ce soir entre 18h et 20h.
Je reconnais cette voix, c'est une voix typique d'RTL.
Mais bien sûr.
Julien Courbet? Non. Julien Cellier?
Non, c'est pas moi non plus.
Cyprien Sini.
Le programme.
Allez, 200 jours après le 7 octobre, Adas Calderon, mère et femme d'otages, sera avec nous. On vous expliquera également comment le Royaume-Uni va envoyer tous ses migrants au Rwanda. On aura un grand débat sur la Joconde qui pourra peut-être avoir sa propre salle au musée du Louvre. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On en discutera. Et puis on sera avec Thierry Lhermitte à l'affiche d'une nouvelle comédie sur le couple. Sans oublier le grand quiz d'RTL. Bonsoir. Deux nuits pour deux au cœur des vignes du Beaujolais au château de Pizet. Un magnifique 4 étoiles. C'est à gagner. Pour vous inscrire, 3210 dès maintenant. Vous envoyez un SMS au 64 900 en envoyant bonsoir.
Et puis il va y avoir l'auditrice ou l'auditeur du bout du monde.
C'est une auditrice et pour trouver la destination du jour, je fais appel à votre suivi de l'actualité. Indice sonore.
Alors.
Il a plu l'équivalent de 2 ans, 2 jours la semaine dernière là-bas.
Le pays des Instagrammeurs.
On a trouvé.
Et si vous avez trouvé où se trouve notre auditrice du bout du monde, vous nous envoyez un message tout de suite sur l'application RTL pour tenter de remporter un guide du routard.
Wow. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
On en parle.
La complémentaire santé solidaire proposée par l'assurance maladie vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle tout à l'heure avec Caroline qui bénéficie de ce droit.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ces dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde, DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390 € par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Hola patronne.
Quoi hola?
Eh ben dès demain chez Lidl, la tortilla de 500 grammes est à 2,55€.
2,55€ la tortilla?
Et la deuxième est à 1,28€, moins 50% aux épinards, poivrons ou chorizo.
Moi y a pas tortillé, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,10€ le kilo le produit seul, 3,83€ le kilo pour deux produits, transformés en Espagne. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour Victor, est-ce que quelqu'un a trouvé la destination où nous nous rendons?
Bonjour Éric, bonjour à tous. Et oui, c'est Rémi à Péronne qui nous dit on part à Dubaï.
Eh oui, la pluie, l'indice, c'était Dubaï et les grandes inondations de la semaine dernière. C'est parti.
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour. Mon cher auditeur, ou plutôt ma chère auditrice.
C'est une auditrice. Bonjour Élise.
Bonjour Élise.
Bonjour, bonjour à tous.
Dites-nous ce que vous voyez par la fenêtre, Élise.
Alors attendez, j'enlève mon masque et mon tuba. Alors là, non, je ne vais pas vous mentir. Il n'y a plus trop de flaques dans la ville. J'ai une belle vue dégagée sur le Burj Al Arab dans la partie qu'on appelle downtown de Dubaï.
Le Burj Al Arab, c'est cette tour gigantesque qui fait près d'un kilomètre de haut, qui fait 800 mètres, hein, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Et qui ne paraît pas si grande que ça quand on est à côté, puisqu'elle est entourée de plein d'autres bâtiments très très hauts. Mais on la voit quand même de loin dans toute la ville, donc c'est assez impressionnant.
Imaginez une tour de près de 1 km de haut.
C'est
vous,
dingue.
Vous êtes en hauteur, vous êtes dans une tour vous aussi ?
Oui, ouais, je suis au 11e étage.
D'accord.
Je suis un petit peu loin, quelques kilomètres, mais on la voit très bien.
Vous êtes chez vous ou au bureau, là ?
Je suis au bureau, mais ne le dites pas à mon employeur.
Non, surtout pas. Mais dites-moi, vous êtes en hauteur ? Vous aussi, vous habitez en hauteur ?
Oui, ouais, j'habite au 17e étage. Donc c'était très haut.
Et Élise, qu'est-ce que vous faites à Dubaï ? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vivre là-bas ?
Alors, ça, on pourrait dire que c'est pour des raisons qui étaient personnelles à la base et puis aussi professionnelles pour une nouvelle aventure après avoir passé de nombreuses années à Paris. On s'est dit que le soleil de Dubaï serait accueillant pour nous et je suis juriste en propriété intellectuelle.
Ah, d'accord.
Ici à Dubaï.
D'accord. Et donc vous êtes venu pour le soleil et vous avez eu l'inondation du siècle la semaine dernière parce que j'ai vu les images, c'était totalement fou.
Ouais, je le disais, 2 ans de pluie en 2 jours.
C'était assez incroyable. J'avais jamais vécu de vraies tempêtes. Alors du vent, oui, on en a en France, mais de la pluie à ce point-là, je dois dire que c'était la première fois. Et en étant en plus, donc j'habite au 17e étage et on a une vue plutôt dégagée en fait qui donne vers la mer. Donc on a vraiment pu voir la tempête littéralement fondre et arriver sur nous. Il y avait ces nuages qui étaient vraiment même pas gris, qui étaient noirs au-dessus de la mer et qui arrivaient en fait. On avait vraiment cette impression de vitesse, quoi. Enfin, le ciel s'est assombri en quelques minutes et là, les trombes et vagues de pluie ont commencé. Donc ouais, c'était assez impressionnant.
Les habitants n'avaient jamais vu ça. Je parle des locaux. Ils ont dû être absolument stupéfaits, non?
Ouais. Exactement, ouais. Enfin, nous, on est là depuis 4 ans et demi, donc on avait vu des épisodes de pluie, mais très très légers, quelques jours par an, souvent au mois de janvier, février. Mais on a entendu des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps nous dire qu'ils étaient là depuis 25-30 ans, et ils avaient littéralement jamais vu ça, quoi.
Complètement dingue, complètement dingue. Bon, est-ce que c'est intéressant de vivre là-bas ? Souvent, les gens vous disent, oui, vous savez, Dubaï, c'est une ville sans passé, il n'y a pas de cœur historique, il n'y a pas vraiment de culture, tout est fake. C'est la principale critique que l'on entend sur Dubaï.
Ouais, alors, c'est en partie, je dirais que c'est en partie vrai, en partie faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la culture, elle a un peu tendance à s'effacer. À titre d'exemple, pendant le mois du Ramadan, il y a encore quelques années, les restaurants étaient tous fermés, les gens ne buvaient pas, ne mangeaient pas en public, etc. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup, voire trop assoupli. Tout est, comme on dit, business as usual, les gens mangent partout. Donc, j'ai l'impression que ça a tendance un peu, malheureusement, à se perdre, parce que malgré tout, il y a une vraie culture qui était là, avant que les buildings et les influenceurs soient présents à Dubaï. J'ai visité il n'y a pas très longtemps un très vieux bâtiment, enfin très vieux, oui quand même, à Abu Dhabi, avec plein d'informations sur la vie telle qu'elle était avant que le pays se développe. Et il y avait des traditions, il y avait des activités qui étaient propres à la région avant ça. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Dubaï et les Émirats aujourd'hui, mais il y avait des choses avant quand même.
Mais cela dit, cette verticalité, cette ville de tours, cette modernité, elle est aussi intéressante. On peut aussi dire, mais bien évidemment, quand on va à Dubaï, on vient pas chercher le vieux quartier, je sais pas, de Fès au Maroc, c'est sûr. Mais en revanche, oui, on peut dire qu'il y a quelque chose de moderne, comme il pourrait y avoir quelque chose de moderne à New York ou même à Las Vegas, etc. Il y a des tours qui sont absolument construites par des architectes incroyables. Il y a une modernité qui est intéressante aussi.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des bâtiments avec des architectures qui, je pense, vu la complexité et puis le coût des travaux, on ne va pas se mentir, sont littéralement infaisables ailleurs, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui sont impressionnants. De l'autre côté de mon bureau, j'ai vu sur le bâtiment du Musée du Futur, qui est ce bâtiment ovale, un peu comme un donut. Ça ne va pas leur plaire s'ils entendent ça, mais qui est au bord de la grande autoroute de Dubaï. Et bon, c'est assez impressionnant, on ne va pas se mentir. C'est quand même très impressionnant, ouais.
Quand est-ce que vous êtes allé à la plage la dernière fois ?
Ah, c'était il y a deux jours, dimanche, samedi et dimanche.
Il y a des plages incroyables, une mer très chaude.
Il y a des belles plages qui malheureusement ont tendance à se bétoniser quand même un peu, c'est vrai, mais il en reste quand même des jolies. Et elle est chaude, mais comme il y a eu donc cette grosse tempête, elle était encore à température tout à fait convenable, donc c'était très agréable.
Vous allez parfois dans le désert ?
Parfois, mais mes amis vous diront que si je vous dis ça, c'est que je suis une menteuse, parce que eux, ils vont souvent, moi beaucoup moins, parce que le sable partout dans les chaussures et partout dans les affaires, j'avoue que c'est pas trop mon truc, mais c'est quand même sympa. Élise, donc on le fait de temps en temps.
Vous semblez apprécier cette vie à Dubaï. Est-ce que vous allez y rester ou est-ce que vous allez rentrer en France ?
Eh bien, spoiler alerte, je vais rentrer en France. Alors, pas à cause de la tempête, c'est pas la raison. mais ça y est, je crois que j'ai fait on a fait avec ma famille le tour de la question à Dubaï, je pense. Donc, c'est un choix qui reste difficile, mais on rentre pour des raisons personnelles, la famille, etc. Et puis la nature quand même, qui manque pas mal à Dubaï. Mmh. Donc, le retour est déjà prévu pour dans quelques mois, ça y est.
Merci, Élise, notre auditrice. Merci. Du bout du monde, conseil en priorité industrielle, juriste à Dubaï. Merci à vous. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Bonjour Éric Brunet.
Une affaire mythique, 1984.
Exactement, c'est l'affaire Valérie Subra, l'appât de mort dans les beaux quartiers de Paris. On en parle tout de suite.
Et nous serons à l'écoute. Au revoir Lisa Marie.
À demain.
À demain.
RTL. Julien Courbet, ça peut vous arriver.
Chaque année, il y a des petits malins, des escrocs tout simplement, qui vous envoient des mails pour vous expliquer que vous êtes un fraudeur en quelque sorte, en vous expliquant qu'il faut rapidement payer des sommes souvent très importantes. C'est plutôt bien ficelé. Ils prennent bien entendu le soin de vous mettre un lien qui va vous emmener sur un compte pour pouvoir payer. Donc si vous recevez ce genre de mail actuellement, méfiez-vous, ça sent quand même l'arnaque.
Le journal des arnaques, c'est tous les matins à 11h dans Ça peut vous arriver sur RTL. La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le parc national de forêt, le parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjadore.com.
Souvent, on doit faire des choix dans l'aménagement de sa maison. Mais pour votre porte de garage, pas de compromis. Choisissez la qualité J-Pass. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
Renault. L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source, l'Automobile Magazine 2023.
RTL.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Gagner de l'argent, se faire une place, monter une boîte. Voilà les mots qui reviennent sans arrêt dans la bouche des trois accusés. Que ce soit Valérie Subra, ou bien Jean-Rémy Sarraud, ou encore Laurent Attab. Le trio infernal n'est en fait qu'un pâle groupe de meurtriers sans envergure.
Bonjour, une fille et deux garçons. Trois jeunes gens âgés de 18 à 21 ans qui rêvaient de fortune et d'Amérique. À la Noël 1984, la France va découvrir l'épopée meurtrière de ce trio Valérie Subra, Laurent Attab et Jean-Rémy Sarraud. Ils venaient de tuer coup sur coup un avocat parisien et un commerçant du Sentier, deux célibataires torturés à mort pour qu'ils donnent leur argent et leurs bijoux. Ces trois jeunes gens vont être surnommés les diaboliques, car c'est dans un piège qu'ils ont attiré leurs victimes. Il a suffi pour cela que la très jolie et très charmeuse Valérie séduise ces hommes qui lui ont ouvert leurs portes. Elle a servi d'appât. Les garçons se sont ensuite chargés de la basse besogne, un trio qui n'en était qu'au début d'une série noire. D'autres cibles étaient inscrites sur leur sinistre carnet de chasse. Qui sont donc ces bourreaux d'un soir, dépourvus de scrupules, qu'ont-ils raconté aux enquêteurs comment une jeune femme insouciante et souriante est-elle devenue du jour au lendemain une figure du crime ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Valérie Subra et les deux garçons, piège fatal dans les beaux quartiers. La petite, c'est une fille bien, elle est toute jeune, jamais elle n'aurait fait de mal à Laurent. L'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers, à tout de suite sur RTL.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On en parle.
La complémentaire santé solidaire proposée par l'assurance maladie vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle avec Caroline qui est hôtesse de caisse et en bénéficie. Bonjour.
Bonjour.
Alors comment avez-vous appris que vous pouviez bénéficier de la complémentaire santé solidaire ?
Eh bien, comme je travaille, je ne pensais pas avoir droit à ce genre d'aide. Mmh. Puis un jour, j'ai discuté avec une collègue qui a les mêmes revenus que moi. Et ouais. Puis je me suis rendu compte que c'était possible.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
J'ai pu suspendre ma mutuelle d'entreprise, qui était moins avantageuse pour moi. Ouais. Et maintenant, avec la complémentaire santé solidaire, j'ai plus rien à payer pour mes frais de santé. Le pédiatre pour mes enfants, ou même mon dentiste.
Merci beaucoup, Caroline.
On en parle. Pour vérifier votre droit à la complémentaire santé solidaire, rendez-vous sur amélie.fr.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
C'est si bon.
Rouge des prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faufilé.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snacké.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
14h30, 15h30. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Valérie Subra. Hiver 1984, cette jeune femme et les deux garçons qu'elle fréquente vont se profiler derrière deux meurtres. Le premier est celui d'un avocat amical et bon vivant qui n'a jamais été menacé. Samedi 8 décembre 1984, vers 18h45, Françoise Nicoulot, secrétaire de l'avocat parisien Gérard Lelédier, débarque au cabinet en rez-de-chaussée sur cour au numéro 97 de la rue de Prony, dans le 17e arrondissement de la capitale. Elle est accompagnée d'une amie, Patricia Montblus. Les deux femmes ont un mauvais pressentiment le matin. Gérard divorcé, a oublié d'aller chercher son fils au lycée. Il ne répond plus au téléphone et il n'a pas récupéré son courrier devant la porte de son cabinet, qui lui sert aussi d'appartement. La secrétaire ouvre avec le double des clés. Les deux femmes découvrent un logement sans dessus-dessous, des tiroirs ouverts, une chaise renversée. Dans le salon, la radio est allumée. Il y a là le corps de Gérard Lelédier. 50 ans, il gît sur le dos, cheville et poignet liés. Une éponge dans la bouche, le visage est ensanglanté et la perruque que portait la victime est tombée. Les légistes notent une longue liste de sévices. L'homme a reçu des coups au ventre, au visage, frappé au crâne avec un morceau de bois qui s'est brisé, torturé avant d'être poignardé. Le ou les meurtriers cherchaient de l'argent. Ils sont repartis avec 1200 francs. Aucun dossier du cabinet n'a été volé, hormis deux ou trois affaires de stup. L'avocat ne traitait pas d'affaires sensibles, le plus souvent des divorces ou des infractions routières. La brigade criminelle n'exclut pas le crime crapuleux, mais elle n'écarte pas non plus une agression à caractère privé ou même un sordide jeu sexuel. Ces derniers temps, des homosexuels ont été agressés et ligotés, même si une ancienne collaboratrice de Maître Lelédier témoigne que ce dernier penchait plutôt pour les jeunes et jolies femmes. Elle envoyait passer beaucoup au cabinet. Il est présenté comme des hôtesses de l'air ou des stagiaires. Gérard Lelédier avait sa table au jardin de la Boétie, dans le quartier des Champs-Élysées, un établissement chic et feutré, réputé pour sa clientèle de couples libertins, de maris et de femmes infidèles. Le jour de sa mort, vers 20h45, Lelédier a parlé à sa mère au téléphone. Il lui a dit qu'il attendait une amie pour l'emmener dîner au jardin de la Boétie, mais la table de l'avocat est restée vide. Lundi 17 décembre, 9 jours après le meurtre de l'avocat, la police est appelée à une adresse toute proche, au numéro 12 de la rue Marguerite. Le corps d'un commerçant du sentier, Laurent Zarade, 29 ans, a été découvert dans le bureau, chambre d'amis de son appartement. C'est son frère, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, qui l'a retrouvé dans cette pièce fermée à double tour. Laurent Zarade, habillé d'un pantalon et d'un polo blanc, repose sur le sol, la tête enfouie dans un peignoir rose, ensanglanté. Autour de son cou, une écharpe bleue qui a cédé alors qu'on tirait dessus. Les pieds et les mains sont attachés avec les cordons des rideaux. Laurent Zarade a été frappé, achevé à l'aide d'un coupe-papier retrouvé sur place qui lui a perforé le thorax et un poumon. On lui a volé sa chaîne en or, sa bague aux trois anneaux Cartier et sa montre de luxe. Comme l'avocat Lelédier, le commerçant Zarade aimait le monde de la nuit et les jolies femmes, c'était un habitué de l'Apocalypse, la boîte à la mode des Champs-Élysées. Le soir de sa mort, il devait dîner avec son frère et des amis, mais il a fait savoir qu'il avait rendez-vous avec une fille. Le frère et la sœur se renseignent dans le sentier. Ces derniers temps, Laurent a été vu avec la vendeuse d'un magasin du quartier, Valérie Subra, 18 ans. Mais un commerçant les rassure. La petite, c'est une fille bien, elle est toute jeune, jamais elle n'aurait fait de mal à Laurent. Et évidemment, la brigade criminelle va vérifier qui est cette Valérie Subra, dernière petite amie en date de la deuxième victime. Il va s'avérer qu'elle connaissait aussi la première et qu'elle n'était pas seule quand les crimes se sont déroulés. On va détailler tout cela dans la suite de l'émission. Alors, il faut se rapprocher tout d'abord de ces scènes de crime qui, effectivement, se ressemblent à quelques centaines de mètres l'une de l'autre dans un même quartier. Bonjour, Guillaume Fard.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste police-justice sur BFM TV. Tous les téléspectateurs, vous connaissent. Et puis, vous êtes auteur de ce livre, Flick Stories, qui sort demain aux éditions du Rocher. Merci de nous donner la primeur de cet ouvrage. Alors, si vous intéressez aux histoires de police, si vous intéressez aux personnages qui font la police, à ces grands commissaires, ces grands enquêteurs, il faut lire ce livre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Il est plein d'enseignement. Et il y a également, vous avez interrogé dans ce livre Christian Flèche, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres, qui est avec nous aujourd'hui dans le studio L'Heure du Crime. Bonjour Christian Flèche.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Alors on va revenir sur vous parce qu'à l'époque vous êtes commissaire, directeur d'enquête au 36 Quai des Orfèvres et vous avez traité cette affaire au plus près puisque c'est vous qui avez notamment interrogé cette jeune femme, Valérie Subra. Guillaume Fard, Gérard Lelédier, puis 9 jours plus tard, Laurent Zarade, tous les deux torturés, massacrés. Il y a une signature criminelle.
C'est toute la question que doivent se poser les enquêteurs, et c'est Christian Flesch ici présent qui les dirige sur cette enquête. Mais il faut faire le rapprochement. C'est pas si évident de faire le rapprochement, parce que vous avez deux victimes qui, au fond, pas grand-chose à voir entre elles. Vous l'avez très bien rappelé, il y a un avocat, il y a quelqu'un qui est plutôt dans le sentier, dans le milieu des commerces.
Et qui ne se connaissent pas,
manifestement. Le textile, qui ne se connaissent pas. Alors, des modes opératoires qui peuvent être certes voisins. Il y a eu beaucoup de sévices, de blessures physiques. Ils sont poignardés tous les deux, peut-être pas avec les mêmes objets, mais encore faut-il faire ce lien-là. Et ce lien, alors je ne sais pas si on peut le dire dès maintenant.
Allez-y.
Comment est-ce qu'il est fait? C'est par les carnets d'adresses.
Oui, c'est ça.
À l'époque, pas de téléphone portable, hein, les carnets d'adresses sont papier.
Ou on note tout, évidemment, et ça voilà. Laisse des traces.
Avec des abécédaires, hein, c'est vrai.
Vite, ouais. Christian Flesch, donc le disait, vous êtes l'ancien patron du 36, on vous connaît bien, et merci encore d'être avec nous aujourd'hui dans cette heure du crime. À l'époque, évidemment, vous vous emparez de cette affaire à la CRIM, c'est vous qui allez superviser ce dossier et le suivre au plus près. Il y a cette première victime, il est avocat. Alors ça c'est sensible, parce que les avocats, on ne sait pas trop, il y a peut-être plusieurs options.
Bien sûr, merci de m'inviter, et puis j'ai un peu de scrupule à venir pour parler de ce livre où je suis que l'un des 10 qui a été interviewé, j'ai un peu le porte-parole des autres de mes collègues, mais je le fais avec bien, beaucoup de gentillesse pour eux, et beaucoup de respect aussi. Sur cette affaire, donc, d'abord, la brigade criminelle, c'est une vraie machine, une vraie structure qui a ses habitudes. Et sur une affaire comme ça, il y a un groupe d'enquête qui est désigné. Donc, ce samedi soir, lorsque pour la découverte du corps de Maître Lelédier, c'est un groupe d'enquête qui est désigné. Et il se trouve que par le hasard des permanences, je suis le commissaire qui est de permanence avec ce groupe d'enquête, comme par l'autre des coïncidences, je serai le commissaire de permanence pour la deuxième affaire, quelques jours plus tard, dans le 17e également.
Celle de Laurent Zarrad.
Celle de Laurent Zarrad, qui sera avec un autre groupe. Donc, effectivement, un avocat qui meurt dans son cabinet, on a toujours tendance à penser que ça peut être à cause d'un de ses dossiers. Donc, vous avez parfaitement résumé la scène de crime. On dit qu'il n'y a pas de dossiers qui ont été volés, peut-être, sous réserve.
Il faut le vérifier,
un
évidemment.
Inventaire complet. Ouais. En tout cas, des dossiers ont pu être consultés. Et puis, en tout cas, vous l'avez dit, ce sont des dossiers de divorce. Il peut toujours y avoir une partie qui peut être satisfaite du résultat et qui va se venger sur la situation. Donc, on privilégie d'abord ça. C'est avec l'ordre des avocats, avec tout ça, qu'on peut éventuellement progresser, puisqu'il y a le problème du secret lié au dossier. Et puis, il y a la vie nocturne, je dirais, de la victime qui devient immédiatement plus intéressante pour l'enquête.
Alors ça, c'est intéressant. Guillaume Fard, vous y avez fait allusion, mais c'est le monde de la nuit, finalement. Oui. Ces deux victimes, elles sortent beaucoup et elles voient beaucoup de jolies femmes.
Oui, exactement, mais après, encore, il faut...
Oui, oui, mais on avance un peu, quand même.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, et en plus...
Ils ne fréquentent pas les mêmes lieux, c'est vrai.
Dans le monde de la nuit. Et effectivement, cet avocat, Maître Lelédier, il sort beaucoup. Vous avez rappelé, il a ses habitudes dans certains restaurants, dans certaines boîtes de nuit. Il y a beaucoup de femmes. Et vous l'avez très bien dit, il y en a, elles sont présentées comme des hôtesses de l'air.
Ah oui, mais il est discret, l'avocat.
Alibis aux concierges, etc. Mais bon, l'entourage de l'immeuble n'est pas tout à fait dupe sur la vie sentimentale, on va dire, très riche. Très dense de cet avocat. Est-ce que c'est une piste? En tout cas, elle mérite aussi d'être explorée. Et c'est peut-être à la faveur de cette deuxième affaire que justement les liens.
On fait le lien, et vous avez parlé du carnet d'adresses. On va trouver des noms identiques dans le carnet d'adresses. Christian Flesch, oui. Il y a un défilé de femmes au 36.
Effectivement,
vous allez en interroger plusieurs.
C'était pas le moment le plus
désagréable
de la période, puisqu'on recevait des femmes. Malheureusement, elles n'étaient pas toutes à un niveau de compréhension de la situation suffisante pour être. Satisfaisant, je dirais. Le boulot du premier groupe d'enquête était de savoir avec qui Maître Lelédier avait rendez-vous, quel était son dernier rendez-vous. Ce qui était un peu difficile, comme il avait une vie nocturne et agitée, c'est que parfois il avait, sur la même période, plusieurs rendez-vous.
D'accord.
Et on ne savait pas laquelle personne il avait rencontré en dernier. Et donc il faut qu'on trouve la personne qu'il a vue pour la dernière fois vivant. Voilà, ça c'était un vrai boulot.
Ça c'est l'objectif.
C'est l'objectif de cette première enquête qui se déroule quand arrive la deuxième enquête. Et sur cette deuxième enquête, on a eu plus de chance dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, mais peut-être en accélérant un peu les choses, c'est que on a su qu'il sortait. Et grâce à la famille de la deuxième victime, on a pu savoir avec qui il avait été vu la veille au soir dans la boîte de nuit.
Et il est voilà. vu avec Valérie Subra,
qui nous était donnée comme étant une vendeuse dans un magasin du Sentier.
Juste un mot là-dessus, Guillaume Fard. Valérie Subra, ça y est, elle est dans le paysage, mais elle n'est pas la seule, on est d'accord. Elle n'est pas connue, cette jeune femme.
Non, et là où Christian Flech le résume bien, c'est qu'il y a un côté aidant par rapport à la solidarité des commerçants du
Sentier. C'est vrai, c'est la famille qui est sur la piste.
Ils mènent pas une enquête parallèle, mais en tout cas, ils font leur meilleur effort pour aider la brigade criminelle. Et c'est eux qui finissent par dire, mais en fait, ils fréquentent cette jeune femme, Valérie Subra. Elle est pas inconnue dans le quartier du Sentier, puisqu'elle vend des vêtements. Et donc, après, y a la question, comment est-ce qu'on la relie, elle, à la première victime.
La jeune vendeuse va se retrouver la première en garde à vue. Valérie Subra et les deux garçons, piège fatal dans les beaux quartiers. Laurent voulait amasser 10 millions pour qu'on s'installe en Amérique. Je voulais faire ma vie avec lui. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Moi, ça me rend joyeuse. La dernière fois, je suis revenue au bureau après un don de sang et il y a un collègue qui m'a dit « Mais t'es tout sourire, Sarah, aujourd'hui ?» C'est ça. À chaque fois que je donne, en plus d'être fière de moi, je me sens vraiment bien. On a tous une raison de donner son sang ou son plasma. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Vous souhaitez une voiture au prix de l'occasion mais avec une fiabilité irréprochable ? Rendez-vous dans un instant.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Mano Mano. C'est le retour des Mano Mano Days, des maxi promos pour vous équiper, comme sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 à 199 €.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano.
C'est aussi des Pro Days sur le site et l'appli Mano Mano Pro. Mano Mano. Offre valable du 16 au 29 avril, voire conditions sur manomano.fr.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça.
Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Si tu dors mal à cause des stores en panne,
Service Store trouve la pièce qui te dépanne.
2000 pièces made in France ou en Europe.
Moteur de store, volet roulant toujours au top.
Alors pour un sommeil réparateur,
répare tes stores chez un leader.
Connecte-toi sur servicestore.com.
Servicestore.com, choix et qualité,
c'est tout comme.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Valérie Subra. En décembre 84, cette jeune vendeuse et deux garçons de son âge vont être soupçonnés d'avoir tué, torturé, dépouillé deux hommes dans un quartier huppé de la capitale. Ils vont être tour à tour interpellés. Jeudi 20 décembre 1984, seulement trois jours après le deuxième meurtre du 17e arrondissement, les policiers de la brigade criminelle se présentent au numéro 49 de la rue du Caire, dans le Sentier, une boutique de vêtements à l'enseigne Jeep. Ils interpellent la vendeuse, Valérie Subra, 18 ans, jeune femme brune et souriante. Son nom et numéro de téléphone figurent dans les agendas des deux victimes. Valérie Subra ne montre aucune surprise. On remarque qu'elle porte une chaîne en or autour du cou, ainsi qu'une bague Cartier à trois anneaux à son doigt. Des bijoux identiques à ceux volés chez Laurent Zarade. La vendeuse est conduite à l'appartement de sa mère où elle vit. On y retrouve une carte de visite de Gérard Lelédier, la première victime. Elle est placée en garde à vue, dément pendant quelques heures son implication dans les deux crimes, puis demande à voir le chef d'enquête, le commissaire Christian Flech. Elle lui confie qu'elle n'a pas tué, mais a effectivement servi de rabatteuse dans cette histoire. C'est elle qui a choisi les victimes pour le compte de deux garçons, juste un peu plus âgés qu'elle. Les crimes, c'était pour l'argent. En garde à vue, Valérie Subra livre les noms des deux garçons dont le quartier général est le bar Le Martins, proche du bois de Boulogne. Le premier s'appelle Laurent Attab, 19 ans, son petit ami depuis 3 mois. Elle est amoureuse, bien décidée à faire sa vie avec lui. Attab travaille avec son père dans une société qui fabrique des sweatshirts. C'est un enfant gâté qui a toujours eu tout ce qu'il voulait jusqu'à ce que les finances familiales soient au plus bas. Il s'est alors mis à chercher de l'argent partout et à imaginer des coûts. Il voulait amasser 10 millions de francs pour s'installer aux États-Unis. Le deuxième homme, c'est Jean-Rémy Sarraud, 21 ans. Lui aussi inconnu de la police, apprenti pâtissier, qui n'a jamais terminé ses études, une scolarité en dents de scie, en rupture avec sa famille. Laurent Attab l'avait pris sous son aile. Valérie Subra explique que c'est Attab qui a eu l'idée de la transformer en appât pour séduire des hommes riches. Elle n'avait qu'à se faire inviter chez eux, les deux garçons se chargeaient de les dépouiller. Selon elle, Attab voyait les choses en grand. Il souhaitait que d'autres filles servent d'appât. Il en avait contacté quelques-unes, mais sans succès. Le 30 novembre, 8 jours avant le premier crime, Sandris, 18 ans, a cependant accepté d'accompagner Valérie chez René Besseau, 38 ans, un industriel. Mais Sandris a pris peur. Elle s'est enfuie. Attab et Sarraud attendaient au coin de la rue. Raté. On se fera René une autre fois, se serait exclamé Attab. Le responsable des jardins de la Boétie était également sur la liste des cibles. Valérie Subra, mou, juvénile et voix calme, raconte les crimes avec une naïveté déconcertante. À son avocat, maître Jean-Louis Pelletier, elle a demandé combien de temps tout cela allait durer. Longtemps, lui a-t-il répondu. En fin de garde à vue, elle a indiqué qu'elle avait tout dit et qu'elle voulait rentrer chez elle. Il fallait qu'elle passe Noël en famille. Et voilà donc pour la garde à vue de Valérie Subra. On a l'impression d'être d'ailleurs dans un jeu. Elle est très absente, Valérie Subra, très présente dans ce qu'elle raconte, très précise, mais également très absente. Et finalement, elle a raconté énormément de choses en minimisant évidemment son rôle et en désignant les auteurs principaux des crimes. Selon elle, bon, ça c'est plutôt de bonne guerre dans ce genre d'enquête. Il va y avoir la confession des deux garçons. Ce sera dans la suite de l'heure du crime. Christian Flech, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Commissaire et directeur d'enquête, je l'ai dit, au 36 quai des Orfèvres à l'époque. C'est vous qui pilotez cette enquête de la criminelle. Alors elle veut vous voir, Valérie Subra, parce que finalement elle a envie de parler au chef. Elle ne veut pas parler aux subordonnés.
Alors,
Valérie.
Oui, criminel, on n'aime pas trop le terme de directeur d'enquête.
Non, mais oui, mais.
Je suis chef de section.
Vous êtes bien responsable. Hein.
Oui, je suis responsable. Et voilà. Donc il y a chef de section, il y a des enquêteurs, un groupe d'enquête qui travaille sur ces deux dossiers. Et puis, on l'avait mise en garde à vue dans le deuxième dossier, celui sur lequel on avait des éléments, puisqu'il y avait des bijoux qui avaient été retrouvés.
Ça. Ouais.
Donc ça donnait des éléments assez forts. Et puis, à un moment donné, par rapport à toutes les difficultés qu'elle avait à justifier la possession des bijoux, elle a voulu effectivement me parler. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais le commissaire ou si c'était le plus jeune, peut-être un peu des deux. En tout cas, c'est effectivement à moi, en tête à tête, qu'elle a voulu raconter sa part de responsabilité telle qu'elle la prenait, c'est-à-dire j'ai désigné et mes collègues étaient Sarraud et Attab, qu'on ne connaissait absolument pas.
Quelle est cette jeune femme qui est en face de vous? Elle ressemble? Est-ce que vous êtes surpris par ce personnage?
Bah évidemment,
je suis sa jeunesse,
surpris parce que moi-même je suis jeune. Je suis arrivé il y a quelques années seulement à la brigade criminelle et dans la police. Et puis en face de moi, j'ai une femme qui a 18 ans, qui paraît complètement insouciante par rapport à la gravité des faits. Et effectivement, à la fin de l'audition, pas à la fin de la garde à vue, à la fin de l'audition, elle a eu le sentiment d'avoir dit ce qu'elle devait nous dire, ce qu'il fallait, ce qui était suffisant. Et elle nous a demandé, elle m'a demandé si elle serait libre pour Noël. Et on était en novembre ou décembre.
Elle ne réalise pas, a priori, ce qui se passe.
Elle est convaincue qu'à partir du moment où elle nous a dit sa part de responsabilité, celle qu'elle prenait, c'est-à-dire j'ai organisé en me faisant draguer, en allant chez les gens, en laissant la porte ouverte et mes copains ont fait le reste, ça suffisait, qu'il n'y avait pas besoin d'aller au-delà.
Guillaume Fard, vous êtes avec nous également dans cette heure du crime, l'un de nos invités aujourd'hui, journaliste police-justice sur BFM TV, auteur, je le cite à nouveau, du livre Flick Stories qui sort demain aux éditions du Rocher. Ce sont en fait des grands flics qui se racontent. Vous avez évidemment interviewé Christian Flech dans ce livre. 10 grands flics qui se racontent, 10 flics et un gendarme.
Oui, 9
policiers et un gendarme. Il faut le citer, oh là là, sinon je vais me faire gronder. Alors Valérie Subra, elle désigne tout de suite ses complices, Attab et Sarraud. Alors là, ce sont deux personnages qui sont aux antipodes, les deux garçons.
Oui, parce que vous l'avez très bien résumé, il y en a un qui voit grand et l'autre qui est recruté, enfin le second qui est recruté un peu par le premier. Mais chez elle, il y a une forme de double naïveté. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a 18 ans? Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme d'insouciance? Mais il y a la naïveté de l'audition avec Christian Flesch ici présent. Où elle lui dit, mais au fond, j'envisage de passer Noël
mais oui,
en famille.
C'est surréaliste.
C'est une méconnaissance profonde de ce qu'est notre droit pénal et du fait que le plus probable, c'est qu'elle le passe en détention provisoire. Et puis ensuite, il y a un peu le côté, au fond, puisque je n'ai pas porté de coups mortels...
Je risque rien.
En tout cas, ouais. Beaucoup moins que les deux autres que je viens de dénoncer. Et ça, c'est quelque chose qui va la poursuivre même au moment du procès. J'imagine qu'on en parlera
bien sûr.
Un peu plus tard. Mais cette naïveté-là, je crois, la caractérise assez bien.
Et on va voir donc ce que vont raconter ses complices, ou en tout cas les deux garçons, Atab et Saro. Eux, ils ont essayé, elle le dit, d'entraîner d'autres filles dans leur aventure. Ils voyaient grand,
oui, Atab. Et donc elle, au fond, ne serait qu'une parmi d'autres, et ce qui minimiserait encore son rôle. Mais oui, le cycle infernal devait se poursuivre. Vous l'avez rappelé dans votre récit, Jean-Alphonse, il y a une troisième victime qui avait été à tout le moins identifiée.
Approchée.
Et puis, il y avait une forme de... Alors, est-ce que c'est du romantisme, de rêve américain, mais une volonté d'amasser rapidement beaucoup d'argent pour aller vivre autre part. Une vie un peu nomade, un peu bohème, et donc il fallait aller très vite pour constituer ce pactole. Et au fond, on se rend compte que par rapport à la somme qui était initialement envisagée, au-delà des 10 millions de francs, ce qu'ils avaient en termes de butin était assez dérisoire. Chez Maître Lédier, ils prennent pas grand-chose, non. Objectivement. Peut-être un peu plus pour la deuxième victime,
Il n'y avait pas de coffre, il n'y avait pas de lingots, etc. Christian Flesch, est-ce qu'ils allaient faire d'autres victimes si vous ne les aviez pas arrêtées
à
ce moment-là?
Bien sûr, sûrement, et peut-être même d'ailleurs le jour où on les arrêtait. Et pour poursuivre sur ce que disait Guillaume, une partie de ce qu'ils ont trouvé, d'ailleurs, le premier soir, ils sont allés en boîte de nuit, ils ont
bu du champagne.
Dépensé une partie avec sans doute des chaussures tachées du sang de la victime. Donc, évidemment, on a vraisemblablement évité d'autres victimes, dans la mesure où au moins une des personnes qui était ciblée s'est aperçue que sa porte était ouverte et est allée la refermer alors que Valérie était à l'intérieur de l'appartement. Donc ça, c'était une tentative qui a échoué parce que la victime s'est rendue compte que sa porte était ouverte et que les deux personnes qui étaient dehors n'ont pas pu rentrer. Et puis, sans doute le soir, au moment où les deux hommes étaient regroupés et où on les a arrêtés, ils allaient récupérer Valérie et peut-être partir sur une autre affaire.
Il y avait une liste, hein, finalement. Ils avaient ces carnets d'adresses.
Elle connaissait beaucoup de monde. Après, il y a des opportunités. Ça dépend des rendez-vous qu'elle peut avoir avec tel ou tel.
Bien sûr.
Et puis, il faut que les personnes soient seules aussi.
Oui. Elle raconte juste un mot là-dessus, Guillaume Fard. Elle raconte que finalement, le planificateur, c'est le petit ami, c'est Laurent Atab.
Oui.
Ça paraît être celui qui est au centre.
Effectivement, et celui qui entraîne Saro aussi dans ce trio diabolique, comme on dira au moment du procès. Et que finalement, c'est un peu lui l'instigateur, celui qui a le plus d'ambition, y compris financière. Mais au fond, qu'en fait-il de cette ambition? Qu'en fais-je le rappeler si c'est pour boire en boîte de nuit le maigre pécule au regard de la gravité du crime qui plus est? Et c'est ainsi que se dessine ce trio. Et ce qui va être assez central pour l'après, c'est justement la répartition des rôles des uns et des autres.
Laurent Atab et Jean-Rémy Saro sont en garde à vue. Quels récits vont-ils faire des crimes? Valérie Subra et les deux garçons, piège fatal dans les beaux quartiers. Il a perdu sa perruque, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais scalpé, je suis sorti de la pièce. Je suis revenu avec un couteau. L'enquête de l'heure du crime, pourquoi fallait-il tuer à tout prix? C'est à suivre dans un court instant sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche, là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, la trottinette électrique Ninebot F2+, est à 499€ au lieu de 599, soit 100€ de réduction. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Visio Confucius, tu vois ? Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.